bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Bonjour, bienvenue, c'est le meilleur de la bande originale avec Leïla Kadoboudedi, Daniel Morin, Albert Algou, Frédéric Sigrist et Tanguy Pastureau. Au programme aujourd'hui, Thierry Lhermitte, la bande originale de Sophie Marceau et Pierre Richard, et en live, Grand Corps Malade, le meilleur de la bande originale. C'est parti,
Thierry!
Thierry, ravi de vous accueillir. Nous avons l'habitude de vous accueillir pour parler de la Fondation pour la Recherche Médicale dont vous êtes l'un des parrains. Nous avons l'habitude de vous entendre avec Ali, une fois par semaine également, parler...
Une fois par mois.
C'est une fois par mois?
Ouais. Et on vous voit passer en régie,
faire un petit coup.
On interrompt l'émission, on dit « Ah, c'est Thierry !»
Non, c'est, il se trompe de régie. C'est
mais là, pardon, on est tout autant ravi de vous accueillir pour ce film La Finale de Robin Sykes. C'est son premier film.
Ouais.
Bah, c'est une réussite que pour une première, franchement. Bravo. Une réussite. Vous êtes aux côtés de Ryan Benzetti, Emily Khan et Lies Salem, entre autres, dans ce film. Vous y jouez le grand-père de Ryan Benzetti, papy même, qu'il appelle à un moment donné. Au début du film, on le comprend très rapidement dans les 4, 5, même pas premières minutes, vous occupez d'un bar, d'un restaurant qui se trouve près du Parc des Princes, où vous avez côtoyé le monde du sport. On verra que ce détail-là a une importance, et on le comprend déjà avec le titre, la finale. Et hop, problème, quelqu'un paye son addition, s'en va, et vous le rattrapez en disant « Eh, oh, deux secondes, il faudrait payer. » Et là commence la descente, j'ai envie de dire la perte de mémoire. Vous êtes atteint d'Alzheimer, et c'est toute une espèce de road movie qui va se passer entre votre petit-fils et
bah
vous.
Oui, je deviens le boulet parce qu'il faut qu'il aille faire sa finale à Paris. Ils sont de Lyon, il faut qu'il aille faire sa finale à Paris.
Et
il est coincé de basket, oui. Et il est coincé avec son grand-père, qu'il connaît pas très bien, qui peut faire n'importe quoi à tout moment, qui oublie tout. Et il m'appelle Dory. C'est pas gentil.
Le poisson dans Nemo.
C'est le meilleur personnage de Nemo.
Vous l'appelez Jean-Pierre en même temps. Donc, prêté pour un rendu.
Donc, c'est tout. Voilà. C'est cette comédie qui emmène
Alors c'est ça qui est fort, parce que c'est extrêmement touchant, c'est même bouleversant, il y a évidemment beaucoup d'émotions, mais tellement de rire. C'est-à-dire que le parti pris d'en rire ne vous a pas fait douter une seconde que l'on puisse comprendre ce que vivent malheureusement les malades d'Alzheimer.
Non, moi je l'ai lu, ça m'a fait rire et ça m'a ému. Puis j'ai voulu vérifier que ce soit 100% vrai, donc je l'ai fait lire à un copain dont la mère était malade et il m'a dit non, bah, c'est tout comme ça.
Et y compris le « on se connaît à des membres de sa propre famille.
Ah bah on se connaît, bien sûr. Un stade où il ne se reconnaît plus lui-même du tout.
On cache les miroirs.
Ouais. Et tout ça, dans le film, c'est fait avec discrétion, avec humanité et sympathie. Et du coup...
on rit pas contre, on se moque pas.
Ouais. Et les gens qui ont vu le film, parce qu'il y a eu plein d'avant-premières, et les gens qui ont vécu ça dans leur vie, nous disent merci d'avoir montré ça comme ça, parce que c'est trop chouette de penser que ça peut se passer comme ça.
Est-ce que pour préparer ce film, vous avez rencontré des familles, soit des malades.
Je voulais rencontrer quelqu'un qui était à ce stade-là de la maladie, puisque c'est évolutif, au même stade que le personnage. J'ai rencontré le père d'un copain qui était, on a bu un coup dans un café, voilà. On a eu une bonne petite discussion, un peu décousue, mais très, très marrante. Mais moi, ça m'a donné plein d'empathie et j'ai eu l'impression de comprendre ce qui se passait dans sa tête, parce que c'était dingue, hein, franchement, comme discussion, c'est un peu hallucinant.
Décousu.
Décousu. Mais en même temps, plein de dignité, parce que je voyais cet homme-là qui disait qu'il me connaissait du cinéma, mais bon, j'étais pas trop sûr, je pense que c'est son fils qui lui avait dit, et puis qui savait bien qu'on parlait de choses, mais qui savait pas trop, mais qui voulait pas avoir l'air d'eux non plus, avoir l'air complètement à la masse, donc qui me racontait avec beaucoup d'affirmations des trucs un peu particuliers.
En voulant rester digne.
Exactement.
Les moments troublants, c'est quand on a la sensation que votre personnage comprend, revient à la mémoire, en fait. Il y a des éclairs où tout d'un coup il voit, il constate qu'il connaît l'environnement et que tout d'un coup il est conscient qu'il est malade.
Il y a des moments où ça passe, où le courant passe et puis ça s'en va. Voilà.
Ces moments-là sont autour du sport aussi, parce qu'il est en photo avec Aimé Jacquet, avec des sportifs, avec des basketteurs. Le basket étant le sport préféré de votre petit-fils. JB, comme le whisky, parce que c'est Jean-Baptiste. Oui. C'est ça. La vanne est récurrente, mais elle arrive 25 fois dans le film. Mais encore une fois, ça en est drôle. Et c'est évidemment que c'est drôle, évidemment que c'est une une comédie, mais en même temps, on a peur pour lui aussi, en se disant, mais qu'est-ce qui va se passer? Il peut descendre du train pendant que le train roule, il peut se tromper dangereusement de direction ou d'adresse.
Ben le père de ce copain dont on a vu ce copain dont on a vu le père plutôt, il raconte que parmi les indices qui l'ont fait penser que ça commence à déconner, c'est le père devait venir chez eux et il était en route, et puis au bout de deux heures, il habite à une demi-heure, au bout de deux heures il était toujours pas là, donc il l'appelle dans la bagnole, il dit t'es où? Ben je suis vers Orly, Roissy. Mais non, mais pas du tout, fais demi-tour, c'est pas là. Et là ils comprennent qu'il fait demi-tour sur l'autoroute.
Waouh!
Et alors, ils disent, range-toi! Non, il s'est rien rangé à comprendre où est-ce qu'il est, à faire venir les trucs, et puis il récupère en disant, mais tu te rends compte? Le mec, ça le faisait marrer. Il dit, bah, dis donc, quoi, y a pas mort d'homme, hein, tout va bien.
C'est ça.
Et puis, c'est dingue, voilà, c'est dingue.
Ouais, et puis, il y a des scènes qui sont.
C'est terrible, on doit se dire, si on a un parent dans cette situation, mais où est-il?
C'est toute la famille.
Il peut disparaître, parce que d'un coup, vous n'avez.
Ah, bah, il y en a qui disparaissent.
À moins d'avoir comme le bus dans lequel vous montez, où il y a d'autres malades d'Alzheimer. Voilà, où ils ont un carton autour du cou, un peu comme les enfants, et un tracker pour savoir où ils sont.
Ouais, mais des fois, ils s'en débarrassent.
Ben oui, ben
tout
bien
à
sûr,
fait, parce qu'ils estiment qu'ils n'en ont pas besoin, donc c'est très situation paradoxale, comme vous le disiez.
Et c'est ce qu'on ressent dans le film, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la solitude de la personne malade d'Alzheimer, il y a l'inquiétude d'un cercle de la famille, il y a l'énervement au début, en tout cas, du personnage de Ryan Benzetti, parce que c'est un boulet, comme vous l'avez dit, et qu'il lui a piqué sa chambre en plus.
Oui, mais en même temps...
Mais ça, c'est honnête de montrer l'énervement,
bien
justement.
Sûr, en même temps, lui, il le prend comme il faut. Il n'en a pas la responsabilité, c'est le petit-fils, mais il le prend comme il faut, il le prend avec naturel. Voilà, il est Dory, il est où? Enfin voilà, tu vois, il le prend comme ça, il déconne avec ça. Et ça fait du bien de voir ça comme ça. Et dans le film, et au début, le médecin qui dit, quand les parents demandent, mais comment on le prend? Mais ils disent, avec humour, si vous pouvez. Voilà.
Ouais.
C'est ça que les gens nous remercient.
Ouais. Les parents n'y croient pas, et pourtant, c'est la solution. L'autre solution, c'est l'amour. C'est l'humour, c'est l'amour.
Et l'amour et l'humanité.
Et l'amour et l'humanité. Ouais. Et cet esprit d'équipe dont vous parlez, je reprends là une expression qui est donnée dans la bande-annonce, mais qui est dite évidemment dans le film. C'est-à-dire que l'entraide, et chacun doit faire son effort comme dans une équipe. Il faut mouiller le maillot et il faut avancer tous dans la même direction.
Et comme dit Leïla, on rit avec. Ouais. Les gens n'est pas contre.
Et un autre truc qui est pas dans le film, qui a été coupé à un moment, parce que c'était redondant avec le film, le médecin, il disait, vous verrez que cette maladie, c'est le cadeau de l'instant présent. Mm-hmm. Parce que ça veut dire qu'on peut plusieurs fois se réjouir de la même chose.
Comme découvrir un burger.
Comme découvrir un burger.
Et chaque fois, c'est la première fois.
Quelle merveille.
Capacité d'émerveillement, pardon. Moi, ça m'a beaucoup touché.
Et du coup, tu meurs pas de Alzheimer.
Comme la drague aussi. Il se met à draguer en disant, on se connaît, on se connaît pas.
Ah, à chaque fois, la réjouissance.
Elle se lève pour aller prendre quelque chose au buffet, elle revient. Est-ce que je peux me permettre de m'asseoir? Et ça redémarre. C'est un jour sans fin, mais c'est chaque minute, chaque seconde qui reviennent.
C'est réjouissant, c'est attendrissant, c'est très émouvant. Et puis, moi, quand je vous vois, je suis contente de vous voir, parce qu'après avoir vu le film, je disais, oh, mon Dieu, un jour, Thierry Lhermitte, il sera plus là.
Ah bah,
et puis, non, mais ça.
Ah bah, c'est sympa, ça, comme hier soir, j'aurais dit comme ça vous prépare.
Mais c'est vrai.
On peut pas ne pas penser à la fin, en fait, à un moment aussi. C'est inéluctable. Mais on a le temps.
Dévoiler, mais les derniers mots du film, c'est Thierry Roland. Et c'est dingue ce que ça tombe
c'est
sur le film, c'est hallucinant.
C'est incroyable. C'est incroyable. La finale, ce film a été primé à deux reprises au festival du film de comédie à l'Alpe d'Huez en janvier. Vous avez reçu le prix d'interprétation et quant au film, il a reçu le grand prix. Le grand prix a été remis à Robin Sykes pour la réalisation de ce film, La Finale, qu'on vous encourage à voir et qui sort. On est quel jour aujourd'hui? Je sais même plus. On est mardi. Donc c'est demain.
T'as déjà oublié le jour?
J'ai oublié le jour.
Ça va.
On se connaît, non? On se connaît.
Bonjour, bienvenue dans l'émission Thierry Lhermitte. Foutez-vous de moi. J'espère, Père Albert, que avec votre charité chrétienne, vous avez bien compris pourquoi Thierry
Daniel Morin.
Oui, je suis bien Albert. Mon cher Nangui, vous imaginez bien que le thème de la finale, le film dont vous venez de parler avec un enthousiasme percutant qui n'a d'égal que la brièveté désarmante de vos questions, vous imaginez bien, disais-je...
J'ai fait un effort aujourd'hui.
Oui, c'est vrai, je le constate.
Merci.
Un petit peu plus. Je constate que ce road movie qui associe un homme, disons, d'un certain âge ou d'un âge certain et un adolescent m'a irrésistiblement évoqué mon propre apostolat qui consiste à accompagner, à guider dans leur quête sur les Côtes de France. Des jeunes en recherche à bord de ma camionnette chapelle bâchée cuir clouté noir, garée d'ailleurs près du Parc des Princes, dont je ne citerai que les nouvelles options, athlètes, tatouages, centre de déradicalisation, j'ai du mal à le prononcer, vannes de churros, murs d'escalade, fourgons à bestiaux, cabinet nomade de proctologie. Et bon, en entendant le mot quête, je sens que vous demandez, Nangui, mais quelle quête? Eh bien, si...
Vous avez écrit le texte ou vous êtes en train de le découvrir après avoir reçu par fax?
C'est la quête de mes jeunes. Nangui, ne soyez pas taquin.
Non, mais vous êtes meilleur dans les vieux écrits que dans les nouveaux, mon père.
Si la quête de mes jeunes est spirituelle, celle du jeune Jean-Baptiste, alors Jean-Baptiste, un saint prénom qui n'est donc pas l'apanage de JNB, hein, notre rédac-chef aussi velu qu'inculte et alcoolique, la quête du jeune Jean-Baptiste, disais-je, celui du film, est tout d'abord sportive. Puisque la finale en question, vous l'avez dit, est une finale de basket. Et à ce propos, cher Thierry Lhermitte, j'ai assisté tout à l'heure à un quiproquo qui aurait pu être amusant s'il n'avait pas tourné au drame et même au sordide. Je m'explique. En entrant dans le bureau de la bande originale, alors que JNB, le nôtre, pas le vôtre, venait de dire à Nangui que vous étiez l'invité de l'émission qui allait commencer, et qu'il venait de lui expliquer que JB, le nôtre, le vôtre, pas le nôtre, était un fan de basket, Nangui s'était crié « Super, ça tombe bien, moi aussi j'en ai 3223 paires. Mais oh mon maître, je parle du sport, pas des chaussures. » Une remarque qui valut aussitôt à JNB, le nôtre, pas le vôtre, une paire de gifles, un coup de boule dans les parties honteuses et une grêle d'insultes humiliantes. Bougre d'incapable poilu, tu pourrais pas le dire plus tôt. Le basket, je déteste, je hais ce sport. Idem pour le volley, le rugby, qu'aime beaucoup Thierry Lhermitte, le water polo, la pétanque, le jokari, bref, tous les sports que mon petit corps m'empêche de pratiquer. Voilà, cher Thierry Lhermitte, au prix de quelques bafouillages.
Vous n'êtes pas fatigué, mon père?
Comment se prépare la bande originale?
Il est au bord du rouleau. Il est au bord du gouffre.
Au bord du rouleau,
c'est ça. Au bout du rouleau, au bord du gouffre. C'est au bord du rouleau.
Au bord du rouleau, je vous laisse cette appréciation. Vous êtes au bord du goulot. La bande originale, voilà comment ça se prépare.
C'est compliqué, là.
Bonne émission, quand même. Merci beaucoup.
France Inter, le meilleur moment de la bande originale. Avec Nagui.
Il y aura peut-être grève, hein, tu vas pouvoir te reposer dans les jours qui viennent, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Nous avons Thierry Lhermitte, nous parlons de la finale. Ce film qui porte donc le nom, oui, en effet, du but de la quête.
Le but de la quête.
Du but, virgule, de la quête.
D'accord.
De ce jeune homme, le petit-fils de Thierry Lhermitte dans le film, joué par Ryan Benzetti. Je ne sais pas si c'est la première fois que vous jouez ensemble tous les deux.
Mais oui, c'est la première fois, je ne le connaissais pas, je ne connaissais même pas son nom. Il est formidable.
Et vous l'avez déjà
découvert qu'il était hyper connu.
C'est un phénomène, pour les jeunes gens.
Phénomène, et il est formidable, c'est un mec extra.
Moi, je le connaissais pas personnellement, j'avoue.
Mais comme tu l'as dit, pour les jeunes gens.
Mais non, mais parce que je me suis renseignée, et quand on m'a dit, voilà, il y a un film avec Ryan Benzetti, j'ai eu des ados autour de moi qui m'ont dit, waouh, Ryan Benzetti. Je me suis dit, ok, il faut que je m'intéresse au truc.
C'est ça. Il avait participé à des émissions de télé-réalité.
De danse aussi, je crois.
La danse avec les stars, voilà. Et puis Peps, Clem et Tamara.
Voilà. Donc déjà comédien, mais pas aguerri, pas dans un premier rôle où il partage l'affiche avec vous. Lui donc n'a qu'une seule idée en tête, participer, alors qu'il est lyonnais, participer à une finale de basket, finale junior, qui se déroule à Paris. Les parents se font arrêter, là aussi il y a des quiproquos, il y a des états d'ébriété extrêmement drôles. Bref, les parents se font arrêter, ne peuvent pas l'accompagner à la gare. Lui se retrouve avec son grand-père boulé, malade d'Alzheimer, et qu'il doit d'un coup surveiller. Sa mère lui dit, écoute maintenant ça va, t'es presque un adulte, tu peux être responsable, il faut absolument que ton grand-père prennent ses calmants matin et soir et que tu t'en occupes. Et là, évidemment, il pense qu'à une chose, lui, c'est planter là son grand-père et partir seul faire sa finale de basket. Les choses ne vont pas se passer comme ça. Vous allez partir tous les deux et c'est là où ça devient un road movie. Mais il est évident que rien, strictement rien, ne va se passer comme prévu tout le long. Et ça en est drôle et touchant, oui. Et c'est une belle histoire d'amour familial aussi parce que Alzheimer, ça touche évidemment les personnes qui sont atteintes et qui sont malades. Ça touche touche la famille et l'environnement.
Bah, ça fait un peu exploser, oui, oui. C'est tellement lourd, et voilà, et je le redis encore, voilà, les gens qui sont touchés par ça, ils aimeraient ou ils auraient aimé vivre ça, comme dans le film. Ouais.
Ouais. Comme vous êtes souvent dans les émissions médicales, que ce soit le magazine de la santé sur France 5, et comme vous intéressez aussi auprès de la Fondation pour la recherche médicale aux recherches, est-ce qu'il y a des avancées sur
Madagascar? Il y a des petites avancées, mais pas de rien pour soigner. Il y a des avancées. Par exemple, on a trouvé récemment, deux marqueurs biologiques, parce qu'avant, on était sûr que c'est Alzheimer, mais seulement à l'autopsie. Des marqueurs biologiques dans le liquide céphalo-rachidien et dans le sang. Donc déjà, c'est déjà pas mal de pouvoir être sûr que les patients sont atteints par cette maladie pour pouvoir la soigner.
On est quoi? On est porteur de cette maladie sans le savoir?
On sait rien. D'où elle vient, on sait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est que quand les symptômes arrivent, elle est installée depuis très longtemps, parce que au début, ça commence à s'installer, mais le cerveau est tellement plastique que t'as tout le reste du cerveau qui compense. C'est quand ça compense plus et que là, il y a des dégâts un peu partout.
Ouais. Donc, par quoi? Par des analyses de sang?
Pour l'instant, oui, sang et ponction lombaire. Ça vient de sortir, là, j'ai appris ça avec la fondation Alzheimer. Là.
Voilà. D'accord. La finale de Robin Sykes.
Oh là là.
Je ne lâche rien. Je vous reviens, je ne lâche rien.
Bravo. Il se bat jusqu'au bout.
Ce sera cerveau plastique.
Comme moi, il se bat jusqu'au bout.
Dans quelques instants. Dans quelques instants, grand corps malade.
Je suis très ému, quoi.
Mais oui, mais en plus,
c'est beau à voir. Hein.
Ouais. C'est une victoire. C'est une victoire.
Ça porte respect.
Chaque minute de gagner comme ça.
Je ne t'abandonnerai pas. Je serai là tout le temps.
Merci. Et tes oreilles ont sifflé quand on t'a dit que tu
Moi j'ai des acouphènes, c'est une sacrée
tâche. Tiens,
j'entends les portes du métro et la cohue de la ligne 13. J'entends l'accent des clandos qui vendent des frites merguez. J'entends les piliers de bar qui philosophent et théorisent. J'entends le clocher de la mairie qui sonne le temps des cerises. Est-ce que c'est grave, docteur, tous ces bruits dans mon esprit? Est-ce un trop plein de souvenirs et mon cerveau qui réagit? Est-ce que ça doit me faire peur? En fait, je pense que j'ai compris. Tous ces murmures, c'est juste des acouphènes de nostalgie.
Voilà, l'enchaînement était là. Puisque
on va appeler ça des acouphènes nostalgiques. Ce serait quand même, ça aurait une meilleure gueule quand même, cette chronique. Eh bien, Thierry, moi, quand je pense à vous, je pense à plusieurs films, notamment un peu particulier, parce que vous n'avez pas fait que jouer pour ce film.
Ah, oh la vache!
Coucouillet, beaucoup méchant.
C'est quoi, Coucouillet? Mais c'est un cauchemar ici!
Un indien dans la ville qui est devenu un film générationnel. Pour le coup, on était en 94. C'est l'un des succès cinéma de l'année avec Patrick Timsit. Un film dans lequel vous avez évidemment joué et que vous avez également produit, tout comme Le Prince du Pacifique. À chaque fois qu'en fait vous venez dans cette émission, vous avez ce petit côté un peu dilettant. Oui, bah moi je fais les choses comme ça, voilà. Et un peu distance du métier.
Mais il est en train de tout racheter, là. Il rachète Orange, SFR, Bouygues, ça donne d'affaires.
Fastoche. Et je me demandais quel genre de producteur. Je vais pas y arriver aujourd'hui, mais c'est pas vrai.
C'est contagieux.
Bienvenue, c'est France Inclair. C'est France Inclair.
En fait, Daniel Morin, c'était le premier à tomber.
Mais c'est un virus, en fait.
Il ne peut rester qu'un.
Je suis confuse.
Parlez sans crainte, fille-là.
Écris-le, on va trouver quelqu'un dans le public qui sait parler, t'inquiète pas.
Quel genre de producteur êtes-vous?
Écoutez, j'espère que j'étais un producteur sympathique. En tout cas, je travaillais beaucoup, en tout cas, énormément sur l'Indien dans la ville en particulier, beaucoup.
Comment définir le travail? Comment définir le travail de producteur?
Producteur, ça veut dire c'est beaucoup de temps, parce que c'est du début du projet à l'écriture du scénario. Ensuite trouver l'argent pour monter le film, ensuite faire en sorte que le metteur en scène ait tous les moyens à sa disposition pour le tourner, ensuite idem pour le montage, la finition, et puis savoir le vendre après. Donc c'est un boulot de 2 ans, 3 ans.
Et on investit personnellement dans ces cas-là ou pas? Christian Clavier, à ce micro, nous disait qu'il était toujours partie prenante de la production de ces films, qu'il estimait que c'était important déjà.
On sent que ça le fait rire déjà. On investit éventuellement son cachet ou éventuellement du fonds de soutien, mais on peut pas dire qu'en France...
Il faut fait que quelques producteurs se sont retrouvés vraiment démunis et voire saisis de certaines maisons parce qu'ils s'étaient totalement plantés dans leur projet, et d'autres producteurs n'ont jamais mis un seul centime dans aucun film.
En France, tout le système fait que, justement, il faut mettre de l'argent, mais il n'est pas forcément mettre énormément, que les préventes éventuellement couvrent une grosse partie du film.
C'est ça.
Mais ce qui n'est pas le cas dans les pays où il n'y a pas notre système, et notre système, il est fantastique. Ouais. Alors, il y a peut-être des excès de temps en temps, mais notre système, il est fantastique. Il y a 200 films français par an. En dehors de l'Inde et des États-Unis, c'est le seul pays dans lequel il y a ça. C'est génial.
Et qu'est-ce qui a fait que vous avez tenté l'aventure sur Un Indien dans la ville ou Le Prince du Pacifique? Parce que votre film, elle est gigantesque.
J'en ai fait plein d'autres aussi, on avait commencé avec Josiane, avec Nuit d'ivresse. Mm-hmm. On jouait au théâtre, on se disait, on va faire un film, qu'est-ce qui pourrait le produire? Je dis, il n'y a qu'à le faire nous. Et puis voilà, j'ai démarré comme ça. Et puis j'en ai fait une dizaine en production. Mais ça me prenait. C'est un boulot à plein temps. Pour moi, c'est difficile.
Est-ce que c'est aussi une liberté que d'être producteur? Parce que plutôt que de le donner, justement, Nuit d'ivresse à un autre producteur, maître d'ouvrage du
film. Oui, mais la liberté, c'est d'être acteur à louer. C'est ça qui est la liberté. Ouais. Franchement, ça prend énormément. Oui, acteur à louer. C'est celle-là. C'est bien. C'est un VTC de. Voilà.
L'ubérisation de la société.
Mais franchement, être producteur, c'est un boulot de chien. C'est énorme. Ça vous prend la tête tout le temps. On lit que des scénarios, ce qui n'est pas la lecture la plus enrichissante du monde. Enfin, voilà. Donc, c'est sans doute une liberté pour les gens qui sont. Quand une passion de voir exister un projet, ce qui m'est arrivé pour Un Indien dans la ville, pour d'autres films, mais sinon quand c'est un métier, moi c'est pas pour moi, voilà.
Vous avez parlé de Nuit d'ivresse, il y a d'autres films connus du grand public que vous avez produits.
Quatre garçons pleins d'avenir.
Ah ouais, quand même.
Voilà, qui était un petit film, le Dr. Affelduc, dont je suis extrêmement fier, qui réunit un certain nombre de fans.
C'est culte. Oui, absolument.
Et donc là, c'est fini pour la production. Plus jamais.
France Inter, la bande originale, le best-of, avec Nagui.
Retour à la musique maintenant avec Grand Corps Malade, on parlera un tout petit peu basket aussi avec lui. L'album s'appelle Plan B.
Quand pour ton sixième album tu veux sortir en indé, pour la thune et pour la com, il faut trouver des plans B. Quand tu fais 1m60 et que tu veux jouer à NBA, peut-être que ça se tente, mais prévois quand même un plan B.
Quand tu fais 1m60 et que tu veux jouer à NBA, peut-être que ça se tente, prévois un plan B quand même. Il est là avec ses musiciens et ils chantent ensemble en direct dans la bande originale Grand Corps Malade.
À celui qui veut construire sa maison tout seul, à celui qui pense que l'enfer c'est les autres, à celui qui ne tend jamais la main par orgueil, à celui qui préfère dire le mien que le nôtre, à celui qui pense qu'on doit être seul pour être libre, qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Moi je dis que j'ai besoin des autres pour bien vivre, j'affiche l'esprit d'équipe comme un emblème. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin, l'esprit d'équipe comme un besoin. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin, l'esprit d'équipe comme un besoin. L'homme est un animal qui est fait pour vivre en meute. Tout seul il s'ennuie, il stagne, il se perd. Il est pour son voisin le meilleur thérapeute. Il est pour ses prochains le plus fiable des repères. Parce que plus que jamais j'aime la force de l'équipe, la puissance du collectif, je l'ai vécu et j'y crois. Et même si je suis toujours mauvais en mathématiques, je pense que chez l'homme, 1 plus 1 égale 3. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin, l'esprit d'équipe comme un besoin. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin, l'esprit d'équipe comme un besoin. Les hommes sont plus forts quand ils savent leurs faiblesses. Chaque interaction est féconde, explique-leur que l'entraide et le partage c'est l'avenir de l'espèce. Quand la vie est trop lourde, portons-la à plusieurs. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin. Quand j'ai fait ma partie, je peux passer le témoin. Tout seul je résiste, ensemble on craint rien. On grandit, on progresse et putain on rigole bien. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin, l'esprit d'équipe comme un besoin. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin, l'esprit d'équipe comme un besoin. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin. L'esprit d'équipe comme un besoin. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin. L'esprit d'équipe comme un besoin.
France Inter.
Focus sur Madame Mills, cette voisine si parfaite, où vous jouez tous les deux le rôle d'une femme, que ce soit Pierre Richard ou Sophie Marceau.
C'est moins surprenant pour Sophie.
Pas la même non plus.
Ah, alors, à la fin du film, elle pourrait...
Non, on parle pas de la fin du film.
Elle pourrait être un homme. Non, elle est même assez...
On n'est pas à ça près. Hein.
Elle est même très séduisante en homme.
Histoire... Ah, Nagui, t'as des choses à nous dire ?
Histoire de... Ah bah, j'avoue que Sophie Marceau déguisée en homme, oui, j'ai des choses à dire. Ouais. Faut que tu vois le film. Wow.
C'est un peu gênant. Hein,
histoire.
Mlle Marceau est là.
Il évolue. On en avait parlé hier à propos des usurpateurs dans le monde de la littérature, dans le monde de la création artistique. On est aussi sur un ressort d'usurpateur ou d'usurpatrice avec vous dans ce film, Sophie. C'est votre film, donc c'est à vous que je vais poser cette première question. Partir de mensonges et de faux semblants. Comment vous est venue l'idée?
C'est un fait réel. C'est venu très naturel. Inconsciemment. C'est un peu, vous savez, c'est l'écriture qui parle, quoi. On part d'une idée et puis qui était celle de transformer un acteur en femme. Et à partir de là, on cherche des ressorts de comédie, des ressorts de dramatique, des ressorts romanesques pour raconter une histoire qui n'est qu'un prétexte finalement pour rencontrer ces deux personnages.
Et alors justement, les deux racontent des histoires. C'est-à-dire que ce soit d'un côté l'usurpateur joué par Pierre Richard qui se transforme en Mrs. Mills pour obtenir une œuvre d'art et qui serait un formidable triptyque et une œuvre qui vaudrait un
qui
mobile.
Changerait l'histoire, un mobile. L'histoire de l'art.
Voilà,
ouais.
Et qui vaudrait des millions et des millions. Vous racontez aussi des histoires, parce que vous êtes éditrice dans le film, et là aussi, vous racontez... Chacun, finalement, raconte des histoires.
Aime
les raconter. En se faisant embarquer dans l'histoire de l'autre.
Exactement. C'est un film qui est entre la fiction et la réalité, quoi. C'est-à-dire les vases communicants d'une situation en déboule une autre, et encore une autre, et un petit peu comme ça, sans fin, il y a une espèce de déboulement d'événements qui vont eux les conduire dans une autre vie, on va dire. Mais j'ai envie de dire que tous les personnages...
Et se révéler aussi un tout petit peu, parce qu'ils racontent des histoires, ils mentent, oui, mais les mensonges servent la vérité.
Ouais, au départ, cette rencontre, elle est vraiment sur, non pas un malentendu, mais sur une filouterie, parce qu'il veut lui piquer son objet, donc il va essayer de la tendrir, de la séduire, en se transformant sous les traits d'une charmante grand-mère, la voisine de son palier, et elle qui est un peu seule dans sa vie, qui est très occupée, qui travaille beaucoup...
Pas de mari, pas d'enfant, et uniquement ses livres.
Elle a un passé un peu lourd, hein. Elle a beaucoup de pas d'enfants, une grand-mère qui l'a élevée, ses parents sont morts, elle était très jeune. Donc voilà une vie, on imagine, un peu compliquée. Mais bon, elle est vaillante, elle est courageuse, elle aime son métier aussi parce que ce métier lui permet de s'évader, de se projeter dans tout ce qu'elle ne peut pas vivre dans sa vie, des histoires d'amour formidables, des époques différentes.
Et vous, Pierre Richard, ouais, dans vous
la êtes magie un, vous... de la lecture. En fait.
Exactement.
En plus, ouais. Vous êtes un peu le méchant, le salaud de service.
Ça fait plaisir de jouer un enfoiré, et parce que c'est mon emploi.
Ouais,
Je suis dans le film, je suis un enfoiré. J'avais jamais joué à ça. Alors que dans la vie, je le suis.
C'est pas compliqué, quoi. C'est pas un rôle de composition.
Je me disais, c'est quand même dommage de pas se servir de mes talents d'enfoiré dans la vie. Moi, jouer un enfoiré, c'est vrai. Je veux lui piquer un mobile. Et puis, je trouve l'idée de me transformer en femme. Je m'étais pas aperçu qu'en acceptant un rôle de femme, j'avais vu ça dernièrement dans les journaux, j'aurais été... Les actrices sont payées moins cher que les acteurs. Donc ils en ont profité pour moi.
La bande originale, le best-of, sur France Inter.
Vous voulez rire, Madame Mills, c'est au cinéma. Sophie Marceau et Pierre Richard sont nos invités, pardon, jusqu'à midi et demi. Voici l'humeur de Frédéric Sinistre.
Et si.
Bonjour à tous.
Salut. Je suis bien embêté, Nagui.
Pourquoi ?
Parce qu'en fait, mon petit garçon nous a annoncé hier que plus tard, il voulait devenir cheminot. Oui. Et parce qu'à force d'entendre tous les éditorialistes de France répéter que c'est des privilégiés à la SNCF, et ben maintenant, ça devait arriver, il veut conduire des trains. Alors avec sa mère, on était bien emmerdés parce qu'on s'est dit quand même, le statut de cheminot, c'est un peu le Graal, quoi. On lui a dit, tu préfères pas devenir footballeur ou astronaute, tu vois, un truc un peu plus abordable, moins élitiste. En plus, travailler à la SNCF en France, ça demande du piston et nous on connaît personne. D'ailleurs, je sais même pas si en fait tu dois faire suivre une école pour devenir cheminot. Je crois que tu nais cheminot. Oui, ça se transmet par le père, c'est comme la noblesse. Et ou alors à la limite, tu peux te marier avec un cheminot, mais il faut te convertir au réseau ferré. C'est comme le judaïsme, sauf que tu te fais pas évaluer par un rabbin, mais par un syndicat. Sudrail. C'est très compliqué comme procédé. Alors on lui a dit, fait, tu préfères pas devenir youtubeur comme Norman et Cyprien ? C'est bien aussi, ils font des millions d'euros avec leurs vidéos. Là il a dit, non, rien à foutre de YouTube. Oui, il a 8 ans, mais il est un petit peu compliqué en ce moment. Je veux me faire de l'argent facile, j'ai bien regardé BFM TV, écouté Dominique Seux sur ta radio de gauche. La thune, c'est les cheminots qui l'ont. Hein, quand t'es cheminot, t'es blindé. T'as toujours une table dans les meilleurs restos, tu sors avec des mannequins, t'as un chauffeur, t'as une maison sur la Côte d'Azur et t'as le 06 de Donald Trump. J'ai lu une interview de Nagui dans le Parisien, il a dit que s'il avait réussi sa vie, il serait agent de maîtrise à la SNCF, il ferait pas la télé.
Ah bon ?
Oui, c'est ce que t'as dit.
D'accord.
Alors moi, je savais plus quoi dire, je lui ai dit, Enarc, à la limite, tu vois, on pouvait t'aider, ou même trader chez Goldman Sachs, lobbyiste chez Monsanto, actionnaire de la grande distribution, emploi fictif à la Commission européenne, pourquoi pas ? A priori, des mecs qui profitent du système, il y en a plein, mais cheminots ! T'as mis la barre trop haut ! J'ai un gosse, il a la folie des grandeurs ! En plus, comme je lui ai dit, ces statuts, Emmanuel Macron, il veut les supprimer, parce qu'Emmanuel Macron, il déteste les inégalités. Il les déteste. Surtout chez les pauvres. Parce que les pauvres soient pas égaux entre eux, ça, notre président, ça l'énerve. Il se réveille la nuit, il est à côté de lui, il dit oh, j'ai rêvé qu'il y avait des pauvres qui étaient un peu moins pauvres que les autres. Les étudiants, 5 euros sur les appels, on rabote, voilà. Les retraités, 1200, on rabote, voilà. Tout le monde au même niveau. Hein, parce qu'il y a une norme européenne, c'est écrit. Hein, c'est écrit, voilà. Un pauvre, ça doit faire une certaine taille et un certain poids. C'est réglementé. Hein, il y en a pas un qui doit dépasser. C'est comme les cuillères dans le lave-vaisselle, quand il y en a une qui est un peu plus grande que les autres, c'est toujours plus chiant à ranger. Hein, il a même dit, c'est scandaleux que les cheminots conservent leur statut quand les agriculteurs n'ont pas de retraite. Et ça, voyez-vous, c'est un argument qui marche pour tout. C'est scandaleux d'avoir des pieds quand on pense que les cul-de-jatte n'en ont pas. Voilà. Et on l'a élu pour partager les richesses. Manque de chance, lui, il est là pour nous faire partager la merde. Mais bon, il a l'opinion publique avec lui. 72% des Français se disent favorables à la suppression du statut des statuts. Disent pas des statuts, ça n'existe pas, les statuts.
Hein, du statut au château singulier, statut pluriel.
Là, j'ai fusionné cheminot et statut. Hein. Quand on leur demande pourquoi ils sont contre cette suppression, enfin, pour cette suppression plutôt, ils l'expliquent. Il y en a marre des retards et des incidents. Dans la SNCF, moi une fois j'ai pris un train, j'ai eu 2 heures de retard, rien à voir. Et ça c'est vrai, je ne peux pas le nier. Moi qui par exemple me tape 3 heures de train par jour, et eh ben les trains sont très souvent immobilisés parce qu'il y a un statut de cheminot au milieu de la voie. Hein, d'ailleurs souvent les gens sur le quai, ils le disent, ils disent ah si les cheminots ils partaient pas en retraite 6 mois plus tôt que les autres, et eh ben les trains arriveraient à l'heure. Ça n'a rien à voir avec des investissements qui n'ont pas été faits depuis 30 ans. Non. Donc moi je dis vivement la privatisation de la SNCF pour que Steve, ancien chauffeur Uber et livreur Deliveroo, puisse venir me chercher à ma gare grâce à l'application Train Libre dans sa petite locomotive qui fera avancer tout en pédalant. En attendant, le futur version Macron, faut que je vous laisse, j'ai un train à prendre, enfin, si tout se passe bien.
Merci, Frédéric.
La bande originale, le meilleur moment sur France Inter.
Dans quelques instants, nous recevrons Arnaud Alessandrin, qui est docteur en sociologie de l'Université de Bordeaux, où on va s'interroger et lui poser des questions sur justement tous les travestis ou travestissements au cinéma, puisque c'est l'un des points d'accroche évidemment de Mrs. Mills, et de voir si d'ailleurs c'est pour se moquer ou c'est un effet de comédie ou de tragédie. C'est vrai qu'il y a des travestissements au cinéma qui ont marqué d'ailleurs dans votre mémoire. Oui. C'est plutôt Dope Fire. Ah, pardon.
Jean Carmé,
vous.
Et c'était dramatique, c'était pas une comédie.
C'est vrai. Et vous, Sophie?
Ce qui m'a, moi, c'était Certain Lame Show et Tutsi.
Ah oui. Oh bah oui, bien sûr.
Nobody's Perfect,
ouais,
c'est ça.
Ouais, ouais. Magnifique. Et puis,
Tutsi. Ouais. Bien sûr. On parlera donc avec Arnaud, Alessandrin dans quelques minutes. Mais et avant de revenir sur Mrs. Mills, ce film qui sort demain au cinéma avec Sophie Marceau et Pierre Richard, qu'écoutait-il comme musique dans les années 80, Sophie Marceau? Écoutez. Chapter 3, ça envoie. On imagine bien Sophie dans une chambre seule en jogging, hocher la tête sur AC/DC.
Et en plus, le contraste est intéressant parce qu'en 80, c'est la Boom qui sort sur les écrans. Donc on entend cette musique et qu'on pense à celle de la Boom. C'est un triomphe. Tout le monde le sait. C'est 4 millions d'entrées en France, 15 millions en Europe.
Ah, c'est parce que j'en ai jamais dansé.
Et du jour au lendemain, non, je vous en prie, allez-y, continuez. Du jour au lendemain, Vic, votre personnage, devient l'emblème de toute une génération. Vous êtes toute jeune, en 80. Comment est-ce qu'on vit un tel raz-de-marée?
On le vit, en tout cas, ouais. Mais c'est vrai que ça a été un grand bouleversement dans ma vie, par le fait juste d'être reconnue et donc de ne plus vivre dans l'anonymat. En plus, mes parents ont eu la bonne idée de déménager à ce moment-là, ce qui fait que j'ai perdu tous mes potes d'avant.
Ah oui, tous les repères.
Et je suis arrivée dans une nouvelle école, un nouveau lieu à Paris. Avec Sophie Marceau écrit sur le front. Voilà, mais, c'était un peu...
13 ans, vous êtes avec une recul, jeune fille en formation.
Enfin, je suis une petite fille, même encore 13 ans.
Un enfant, oui. Mais avec le recul, est-ce que ce n'est pas ce qui vous permet d'avoir cette formidable relation avec le public, justement?
Certainement. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on... Du coup, on grandit ensemble. Quoi. Ouais. On fait partie de l'histoire des souvenirs de toute cette génération et ça me fait plaisir aujourd'hui d'ailleurs
c'est plus facile à le vivre aujourd'hui
de se sentir faire partie de cette communauté des cinquantenaires ou des voilà
que de le subir quand on avait 13 ans avec le regard.
Parce qu'à 13 ans les mômes ils sont pas forcément cool quoi. Dans une école soudain quelqu'un de connu arrive et puis la relation à l'autre elle devient difficile parce que elle est plus aussi
simple,
honnête, ou clair.
On peut se poser des questions et se demander quel est l'intérêt des gens à être proches.
Voilà, il faut pas s'enfermer, il faut pas avoir peur, il faut en même temps se protéger. Enfin, c'est tout ça.
Justement, pour Leïla, pour apporter de l'eau à ton moulin et revenir à Mrs. Mills, est-ce que ça aussi, c'est pas la touche personnelle aussi de se demander quel est l'intérêt des autres à vous fréquenter ou à vous parler? C'est la question que l'on se pose autour de la notoriété qui est totalement légitime et que peut aussi se poser votre personnage dans le film en voyant bien, en pleurant même, en disant mais tout ce qui vous intéresse c'est l'œuvre d'art qui est chez moi et tout ce qui était humain, tout ce qui était sensible, tout ce en quoi je croyais finalement n'était que trahison.
Bah oui, moi
donc
je pense que
c'est
rapport,
un sentiment que vous avez déjà vécu quoi. Le regard de l'autre.
Bah évidemment, mais surtout dans la relation qu'on a dans la vie avec tout le monde, le rapport de confiance c'est quand même celui qui est le plus.
Il met du temps,
mais il est essentiel parce que c'est ce qui vous rend meilleur. C'est quand vos parents vous font confiance, c'est ce qui vous donne des ailes. Quand votre partenaire vous fait confiance, c'est aussi ce qui vous libère d'un poids, de la. Enfin voilà, le rapport de confiance, il est. Je pense qu'il est fondamental et c'est ce que je raconte aussi dans l'histoire.
Et l'insouciance là-dedans quand on a 13 ans.
Elle en prend un petit coup. Mais bon, moi, je suis pas sûre d'avoir été jamais insouciante. Déjà petite, j'étais préoccupée.
Pierre Richard, vous, dans ces années-là, vous écoutiez Eddie Mitchell, Monsieur
Eddie.
Tellement bon ça.
Comme une star de ciné, accoudé au jukebox.
En plus, il a la classe, Eddie.
Complète.
Elle rêvait.
Il a la classe dans la vie, comme au cinéma, comme dans la chanson.
Dans la vie, je tourne avec lui, il est incroyable.
Il est formidable, ce monsieur.
Il sait tout, en plus.
Et vous, en 81, c'est Pierre Richard, tout de suite, c'est La Chèvre, forcément.
Exactement.
C'est ce souvenir qu'on a tous, c'est un film qu'on a tous vu, comme Sophie Marceau pour La Boom, vous, La Chèvre, tout d'un coup.
Cette lumière au bout du tunnel.
Ouais, et vous êtes un duo assez insensé avec Depardieu.
La musique, c'est vraiment la plus belle des Madeleine de Proust. On se rappelle Ça, c'est parce que je me souviens, j'étais sur une route au Mexique avec Depardieu, avec le chauffeur, et je sais pas comment ça se fait que j'ai pu capter ça dans des contrées loin aussi lointaines. C'est pour ça que ça m'a rappelé où j'étais comme ça en voiture et j'écoutais ça.
Et initialement, ce projet, c'était avec Lino Ventura.
Oui, alors je ne sais pas pourquoi, on avait même dîné tous les trois avec Weber et Ventura. Et puis je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est pas entre nous, c'est ce qui s'est passé, c'est entre Ventura et Poiré, le producteur. Alors après, pour savoir ce qui s'est passé, est-ce que c'est une question d'argent? J'en sais rien. En tout cas, tout à coup, on m'a annoncé « Ah, Lino ne le fait plus ».
Et alors, c'est vous qui avez eu l'idée, je crois.
Je me souviens, j'étais dans le taxi, avec mon agent Lévy. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, parce que c'était comme ça. J'ai dit à Jean Voisquin, c'est Gérard. Or, Gérard ne tournait absolument pas ce genre de film à l'époque. Mm-hmm. C'était des films, je sais pas, La Lune dans le caniveau, ou c'était les... Et je sais pas pourquoi j'ai dit ça, et Livy a dit, c'est une bonne idée. Et le lendemain, il nous a réunis tous les deux. Il était assis, il s'est dit, oh là là, je vais rigoler. Entre Depardieu et Richard, on va parler de cinéma et tout. Et on a parlé que de l'enfance inadaptée, Gérard et moi. Il dit, oui, moi j'ai un petit cousin, j'ai un petit voisin qui est un arriéré mental et tout. Je dis, ah ben moi, c'est mon... Et hop, on a parlé que de ça. Et le lendemain, et puis c'est tout. Et le lendemain, Livy m'a dit, il est complètement d'accord avec toi. Donc c'était pas une affinité artistique, c'était mais une humaine. Affinité humaine.
Et ce film, c'est un des grands succès du cinéma français, hein, 7 millions d'entrées. Et on l'a expliqué tout à l'heure, vous devenez un duo incontournable en Union soviétique avec 35 millions d'entrées pour ce film. C'est complètement dingue. C'est tout d'un coup, c'est un raz-de-marée. Forcément, vous entrez dans le cœur des gens et vous le disiez tout à l'heure, les babouchkas se jettent sur vous, nécessairement.
Et elles pleurent.
Que les babouchkas.
J'imagine, mais je vais pas
les
aller
hommes
trop.
Aussi, mais...
Ah, les babouchkas. C'est le masculin de
babouchka. Alors, ce qui m'intrigue, ce qui m'intéresse, c'est vous et Depardieu sur un tournage. Ça donne quoi?
On était des, gosses infernaux, totalement irresponsables.
Mais il n'y avait pas Weber.
Et comme Weber était une espèce de jésuite. Il en avait toutes les couleurs. Il savait de toutes les couleurs. Il voulait surtout pas qu'on mange. D'ailleurs, il nous emmenait au.
Parce que vous êtes aussi bon vivant que les Gérard Depardieu en termes de.
Je bois moins. J'y arrive pas. J'ai essayé.
Mais. Vous tenez pas, ouais.
Alors, il nous emmenait, chez. Comment. Pour faire des 15 jours de thalassothérapie.
Ouais.
Pour qu'il maigrisse. Et moi, du coup, j'étais obligé de suivre. Et je me souviens qu'il nous obligeait à courir tous les jours dans les dunes, dans le sable, avec des trucs en caoutchouc pour qu'on perde de l'eau.
Ah oui,
et,
d'accord.
Et nous suivait,
un vrai coaching physique.
Et il nous suivait du balcon avec des jumelles pour moi, pour rien. Et je me souviens que, arrivé à la dernière dune, c'était à Quiberon, voilà. Arrivé à la dernière dune, on disparaissait, donc il nous attendait de l'autre côté, mais là, il ne voyait plus. Il y avait une pâtisserie juste à côté.
Non,
et on se tapait des couilles à man.
Mais
ensuite, on réapparaissait.
C'est le gâteau le plus gras du monde.
Mais c'est
le plus gras sucré.
C'est un gâteau de.
C'est du beurre,
avec un peu de.
Et comme il y avait un petit tabac à côté, on se prenait un coup de blanc. Bon, bref. Et au bout de 15 jours, quand on est passé sur
des
la balance,
cancres.
Parce qu'on prend des balances au début avec le docteur qui dit 87 kilos, et là on était sur les balances le dernier jour, et le médecin a dit, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça, ils ont pris 2 kilos.
En 1985, Sophie Marceau, vous écoutiez. Ah, vous êtes très rock dans votre...
En fait, j'ai réalisé, très rock.
Eh oui, c'est du bon rock en plus,
hein.
Dire Straits, ouais. Money for Nothing.
Et en 85, vous, Sophie Marceau, vous tenez le rôle principal dans L'Amour Braque, l'adaptation de L'Idiot de Dostoïevski. Mm-hmm. Et le tournage, c'est aussi une rencontre de votre vie.
Oui. oui, comme vous dites.
Andrzej Zulewski.
On a fait 4 films ensemble. Ouais, on avait...
C'est la rencontre de deux milieux aussi.
C'est... Oui, enfin de deux milieux et puis surtout, oui, comme vous dites, de un peu de ma vie quand même.
Ouais,
donc
ouais.
C'était peut-être aussi la personne, voilà, dont j'avais besoin à ce moment-là. C'est une rencontre importante, évidemment.
Pardon, mais de l'extérieur, je suis vraiment désolé, allez. Sophie. Mais de l'extérieur, on a l'impression que c'était un personnage. Et je ne parle pas de son talent et de son génie, mais de complexe, en tout cas, ou de pas.
Complexe, oui.
Je sais pas comment qualifier, sûr de lui, ou pas simple à vivre, ou on a l'impression de quelque chose de compliqué, non?
Compliqué, oui. Enfin, c'était quelqu'un effectivement très intense et de très brillant, et qui donc allait au bout de ses idées, de son point de vue. Enfin, voilà, c'était quelqu'un qui était assez autocrate comme ça. Hein.
Mais il n'empêche. Qui pouvait être détendu aussi, par
il
moment.
Il n'empêche. Détendu, je dirais pas, mais. Mais quand même, enfin, oui, c'était quelqu'un de, pour moi, de fondamental, de solide intellectuellement, de cohérent, oui. De. Voilà. Donc. Mais c'était un artiste, effectivement, tourmenté, et qui. Pour qui le cinéma était un moyen vital d'expression, l'écriture aussi. Voilà, c'est un artiste, mais qu'est-ce que vous voulez ?
Et vous allez vivre à Varsovie, vous allez vous installer à Varsovie, ouais. Dans cette Pologne d'avant la chute du mur. Ça, ça doit être aussi une expérience de vie
très intéressante.
Qui marque.
Mais en même temps, moi, vous savez, j'étais encore jeune, j'avais pas voyagé, je connaissais très peu de choses de la vie. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, la vie a accéléré. Mais j'avais comme ça une vision du monde très différente entre Paris, Los Angeles et Varsovie de l'époque. Toutes les trois semaines, je voyageais. Je passais d'une langue à l'autre, d'un monde à l'autre, du communisme au capitalisme. Ouais. J'étais complètement... Mais c'est formidable. C'était très instructif. J'avais l'impression de faire partie un peu de l'histoire du monde aussi. C'était très intense et j'avais besoin de ça. J'avais besoin de me nourrir, évidemment.
En 87, Pierre-Richard, vous écoutiez Michel Jonas. Un peu parti, un peu naze. Copain des Limigels, c'est une bande de potes, tout ça. Comédien aussi, brillant comédien.
Comédien brillant d'ailleurs aussi. Et puis moi je l'ai souvent
vu. C'est marrant que je ne sais que des chanteurs-acteurs ou des acteurs-chanteurs.
De toute façon, j'adore le jazz. Alors donc, c'était une chanson que j'adorais, ne serait-ce que parce que justement, il parle des boîtes de jazz dans lesquelles j'allais, qui ont malheureusement souvent un peu disparu. Mais...
Et tous les artistes qui comptent, les Charlie Parker.
Charlie Parker et tout.
Duke Ellington et
autres. Duke Ellington, que j'adore. Enfin bref, c'était sur la musique que j'aime. Et puis lui que j'ai adoré, qui était un personnage un peu lunaire comme ça, j'aimais bien. Bon, c'est pour ça que je l'ai choisi avec une certaine...
Et il se passait quoi dans ces années 87,
vous réalisez un documentaire, Parlez-moi du Che. Vous parlez souvent dans les interviews de votre intérêt, votre fascination même pour le Che. Vous parlez aussi beaucoup de la période anarchiste qui vous a plutôt pas mal inspiré.
Je sais pas, le Che n'était pas anarchiste.
Non, mais après, en parallèle, vous parlez souvent, par exemple, de Marius Jacob.
Ah, mais j'adorais Marius Jacob, qui est un grand personnage. Marseillais, c'est une espèce de Romain des Bois. Il volait les grandes maisons des grands bourgeois.
Il plaçait des grenouilles autour des maisons pour alerter.
Il avait des grenouilles qu'il plaçait dans la nuit. Et dès que les grenouilles, ouac, 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 et puis ils étaient en train de piquer dans les coffres-forts, et dès que les grenouilles s'arrêtaient, c'était des crapauds. Dès que les crapauds s'arrêtaient, ils se disaient attention, il y a quelqu'un dans le jardin. Et hop, ils filaient.
Et c'était souvent des coffres.
Génial. Il a inspiré Arsène Lupin.
Mais ce type, contrairement quand même à beaucoup, ça n'a rien à voir avec Bono, par exemple, qui était un faux anarchiste. Ouais. Mais ce type, l'argent qui piquait,
Il le redistribuait dans
les quartiers des pauvres. Il distribuait aux pauvres, il ne le gardait pas, il n'était pas riche.
Et aux compagnons emprisonnés aussi.
Et souvent, c'était lui qui...
Et aux femmes des compagnons emprisonnés.
Donc c'est un personnage, c'est un saint laïque. Enfin,
20 ans de bagne.
20 ans de bagne.
Et souvent, c'était lui qui installait les coffres-forts.
Mais c'est-à-dire qu'il avait... Il avait ouvert une maison spécialisée coffres-forts. Il vendait des coffres-forts. Comme ça lui permettait
de les étudier.
Donc, puis surtout, d'abord où ils étaient et surtout de les avoir étudiés. Donc, ils pouvaient ouvrir n'importe quelle conférence, c'est lui qui les avait vendus.
Et une friperie pour se déguiser.
Je vois que j'ai un.
C'est un de mes personnages. C'est un des personnages que j'admire le plus.
J'aurais voulu jouer.
Faire un personnage, ouais.
France Inter, la bande originale, le best-of, avec Nagui.
Et dans la bande originale sur Inter, voici Make Me Feel de Janelle Monáe. Baby, don't make me spell it out for ya. All of the feelings that I got for ya can't be explained, but I can try for ya. Yeah, baby, don't make me spell it out for ya. You keep on asking me the same questions. Why? And second guessing all my intentions. Should know by the way I use my compression that you got the answers to my confessions. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel.
That's just the way you make me feel.
That's just the way you make me feel.
That's just the way.
So good, so good, so fucking real. That's just the way you make me feel.
That's just the way you make me feel.
That's just the way you make me feel.
You know I love you so, please don't stop it. You got me right here in your jean pocket, right now, laying your body on the shag carpet. Ooh, you know I love.
Janelle Monáe sur Inter.
France Inter, la bande originale, le best-of.
On va reparler de tout ça et dans la dernière partie, évidemment, à nouveau du film qui vous réunit, Sophie Marceau et Pierre Richard. Mais c'est Zemel qui est au cinéma demain. Arnaud Alessandrin, merci d'être à notre micro, Arnaud. On voulait parler donc de cette notion, j'allais dire, de déguisement, mais c'est plus fort qu'un déguisement au cinéma. Lorsqu'un personnage devient une femme, ce travestissement au cinéma, c'est une longue histoire. On a d'ailleurs l'idée de la première fois qu'un comédien est devenu comédienne ou qu'une comédienne est devenue comédien.
Oui, c'est une longue histoire tumultueuse, hein, toujours entre le cinéma et les travestissements, puisqu'il faut toujours les prononcer au pluriel. On pourrait peut-être trouver la première figure du travestissement en 1915, avec ce film « Mamselle Charlot ». Alors 1915, ça date, et puis il faut peut-être replacer le contexte, puisque dans l'histoire du cinéma, pour vous donner comme ça quelques dates de ce couple, hein, travestissement et cinéma, on a par exemple Les Enfants du Paradis, mm-hmm. on en a parlé, 1945, donc bien longtemps après. Autre film que vous connaissez peut-être, sûrement, Glenn or Glenda, Deadwood, 1953. La Cage aux Folles, 78, Tootsie, avec Hoffman, on a déjà aussi parlé, 1982, donc on voit bien que c'est une longue histoire, mais ces premières figures, elles datent d'il y a assez longtemps.
Et ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire des hommes qui se déguisent en femmes, des femmes qui jouent le rôle d'un homme?
Alors, c'est une question intéressante, premièrement parce qu'il y a d'abord une... Bon, je vais vous éloigner de votre tablette là, pour la fin de l'entretien.
Oui, s'il vous plaît.
D'abord, il y a un vrai registre inégalitaire hein, dans le travestissement entre les femmes travesties et les hommes travestis d'un point de vue numérique. Hein, on a très peu de travestissements d'hommes. Il y a aussi une vraie différence en termes de menstruation scénaristique. C'est-à-dire que dès qu'il s'agit de parler du travestissement féminin, nous sommes dans le registre humoristique, voire même dans le registre pathologique, ce qui est compliqué de montrer l'identité d'une personne que sur le registre médical. Alors que, dès qu'on travaille sur le travestissement masculin, on a quelque chose de dramatique, on a quelque chose de tragique, et comme ça on pourrait lister hein, les films où les travestis, mais plus généralement les transidentités, les hommes trans hein, au cinéma, meurent ou sont victimes de violences.
de à cause de leur déguisement, de par leur, leur transsexualité.
Alors, je ne vais pas employer le terme de transsexualité, mais en effet,
de l'homophobie,
du fait en tout cas des discriminations transphobes ou homophobes, puisque dans le couple, hein, transidentité, cinéma, il y a une sorte d'amalgame entre changement de genre, changement de sexe, homosexualité, et comme dans la vraie vie, au fond, il est très compliqué de démêler les bonnes représentations des mauvaises. C'est pour ça que les sciences humaines portent un regard sur ces questions-là.
C'est plutôt un ressort tragique, comique, ou justement ça sert l'histoire et ça sert l'imaginaire du cinéma.
Alors peut-être que pour répondre à votre question, il faudrait prendre deux films emblématiques pour qu'on comprenne bien.
Ouais, on va faire ça.
Faisons ça. prenons Tutsi, par exemple. Mm-hmm. Hein, qu'est-ce qui se passe? On a un Dustin Hoffman qui, n'ayant pas de boulot, change de genre pour pouvoir en trouver un. Et ce film, il est classé comment? Il est classé du côté des films humoristiques. Des films comiques.
Comme toute comédie, elle part d'une situation dramatique pour faire rire.
Oui, mais vous allez voir. Quand on travaille sur des films comme Albert Nobbs, on n'a pas parlé, mais c'est un très 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 beau film avec Glenn Close, on est sur le même registre, c'est le même scénario, ça emprunte le même chemin. Glenn Close n'a pas de travail et va se transformer en homme pour pouvoir trouver du travail. Et là, ce film, il est classé comment? Du côté des drames. Du côté des tragédies. Et donc, on voit bien que quand c'est des hommes, on est du côté tragique. Oui, comme si, au fond, on pourrait le traduire comme ça, comme si, au fond, être dans le féminin quand on est un homme, c'est forcément pour en rire et c'est forcément de la dérision. Être dans le masculin lorsqu'on est une femme, c'est forcément de l'ordre de l'impossibilité et dans un contexte marqué par des hashtags comme MeToo, c'est parlant.
Le meilleur de la bande originale continue jusqu'à midi et demi avec Sandrine Kiberlin et Melville Poupeau et en live Grand Corps Malade. On se retrouve juste après les infos. Le meilleur de la bande originale continue sur Inter avec Leïla Kadoboudadi, Daniel Morin, Albert Algou, Jérémy Crédville, Tanguy Pastureau et nos invités, Sandrine Kiberlin, Melville Poupeau et en live Grand Corps Malade. Le meilleur de la bande originale, la suite, c'est parti. Au cinéma, mercredi, avec Agathe Bonitzer, entre autres, Laurent Bateau, Théo Scholbi ou Florence Muller, encore Lucie Descloseaux aussi, dans ce film de Sophie Filière, s'appelle La Belle et la Bête.
La Belle et la Bête.
Eh ben, dis donc.
Je pense qu'il y a un moment où... voilà. Licencié. Ouais. C'est bien, non? 3 heures d'affilée. C'est bien. C'est propre.
Ta carte de cantine.
La Belle et la Belle. La Belle et la Belle.
Ça, c'est bien, ça fait répéter le titre 15 fois.
Mais ouais, c'est bien. Moi, il faut que ça. C'est pourtant. J'ai tellement aimé ce film. En plus, que vous êtes deux beautés. Une troisième avec vous, Melville, mais je suis mal placé.
Oui, c'est la Belle.
Je ne voudrais pas être concupiscent. Je suis mal placé pour juger, mais je comprends.
Pourquoi? Non, totalement. T'es très bien placé. En fait, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis mal placé pour dire que Sandrine est belle.
Ouais, moi, je la trouve très belle, Leïla.
C'est vrai qu'elle est belle. Très bien, mais vous êtes bien placé.
Tu trouves très beau,
vous êtes bien placé, vous êtes pile en face.
Oui, mais toi aussi, t'es en face.
Il m'a dit que j'avais un beau costume. Non,
je trouvais que vous dégagez. Oui, vous dégagiez.
Non, mais dis qu'il est beau. Non, on va faire un travail, on fait un exercice. Non, mais il est capable de le faire. Non, mais c'est pour lui.
Et d'aller, Nagui, vas-y.
Non, parce que ça sous-tendrait.
Fais ton coming out.
Non, mais Nagui,
ça sort pas.
Nagui, ça sous-tendrait que pour une autre femme, tu serais pas à même de la juger.
Non, c'est pas ce que je veux dire.
Il a peur parce que s'il met tout en branle, il a peur de plus lâcher.
Ah, bah non,
on l'a plus, on l'a plus.
Tout en branle, je peux vous dire que je lâche pas.
Voilà. Non, je bizarrement, lorsque je trouve un garçon beau, et les filles autour de moi me disent mais non, mais pas du tout. Exemple Jérémy Crédville. Bonsoir. Et à l'inverse, lorsque
t'exprimes ton goût, c'est bien.
Lorsque je dis non, mais je vois pas ce qu'il a. Les filles me disent folles. Non, mais il est génial, il est beau, c'est un beau gosse.
Enfin, c'est Daniel Morin.
Donc je dis que je n'ai pas la même échelle de Richter de beauté sur les garçons.
Les garçons jugent les autres garçons sur d'autres critères. Des fois, ça peut être un look, une façon de se tenir.
Les femmes aussi. Les femmes aussi. Donc finalement, ça revient à dire qu'on est assez différents. Qu'on n'aime pas les mêmes choses.
Melville, tu es beau.
Ah, bah si tu nous écoutes.
Mais je préfère Sandrine.
Moi aussi.
Tu peux absolument rétablir le truc. Attention.
La belle et la belle. Donc, l'histoire, pour ceux qui n'étaient pas avec nous en début d'émission, c'est il y a une heure, l'histoire veut que Sandrine Kiberlin, de retour pour un triste événement, puisqu'elle a perdu une amie d'enfance, hasard de la vie, elle se retrouve d'une manière encore une fois là aussi capillotractée. Elle se retrouve dans une soirée où il n'y a que des jeunes d'une vingtaine d'années. 20 ans d'écart, vous vous retrouvez dans une salle de bain.
Dans une salle de bain, la salle de bain de l'appartement de la fête. Ouais.
Avec une autre jeune fille, les deux s'appellent Margot, et pour cause, les deux sont la seule, la même et unique personne, mais à 20 ans et à 40 ans, cette différence-là fait qu'elles vont... d'abord, l'une va prouver que...
Elle est le futur de l'autre.
Qu'elle est vraiment elle, voilà, c'est ça.
Elle est vraiment le futur de l'autre, ouais.
Exactement, belle formule. Et puis, et chacune va s'enrichir de
ouais,
la rencontre
absolument.
De l'autre.
Exactement. S'enrichir de ce qui... Oui, en se questionnant toutes les deux, en étant amenées à se rencontrer, on va...
Et à s'accepter aussi, oui.
Ouais. Revenir sur des erreurs en me projetant en arrière et elle, essayer de connaître et de définir ce qu'elle a peut-être même pas en tête, qui sera sa vie future.
Et puis l'amour au milieu, puisque
toujours,
Melville.
Toujours Nagui.
Toujours l'amour au milieu.
Ça voilà. Ne cessera jamais Nagui. C'est comme ça, c'est l'histoire de la vie.
Alors, ça, c'est le roi lion. C'est un autre film. Donc il y a vous qui êtes au milieu. Dans,
oui, c'est normal, puisque moi j'ai été amoureux et on a passé 9 ans ensemble. Donc quand je la rencontre à 20 ans de moins, c'est la même que j'avais rencontrée à l'époque, donc je retombe amoureux aussi sec. Sauf que il y en a, c'est aussi un film sur l'amour, sur le fait que quand on aime, c'est aussi pour la vie, ouais. Et que malgré les épreuves du couple, c'est on est capable ça. De se retrouver. Mmh. Et que, voilà.
Alors, ce que j'ai pas réussi à situer au début, je me demandais si vous étiez Melville Poupeau, l'amoureux. À l'âge d'Agathe Bonitzer, c'est-à-dire à la vingtaine d'années, ou si vous étiez l'amoureux...
Ah non, j'ai pas réussi à faire 20 ans, moi.
Non, mais sincèrement, je me pose la question, parce que vous vivez à travers les deux temps...
Si, on le sent, puisqu'elle, peut-être, sans dévoiler trop les choses, mais à un moment, elle lui dit qu'elle va... La plus âgée des deux lui dit « t'es enceinte ». Et comme on comprend après que celui dont elle a été enceinte, peut-être... Et Melville à l'époque, on imagine que c'est effectivement à cette époque-là qu'il l'a rencontré à peu près vers 20 ans.
C'est pas un film fantastique. Ce qui est beau dans le film, c'est que c'est une comédie romantique avec ce petit twist en plus, comme il y a dans certaines grandes comédies, un truc un peu surréaliste. Une fois qu'on l'a accepté, on part dans l'histoire, on suit les personnages et on est avec.
Et encore une fois, ce qui est agréable, c'est de se poser aussi la question du parcours que l'on fait soi-même, de la vie que l'on a, du libre arbitre que l'on a, de faire des choix. Et si on devait se retrouver, exactement, et si on devait se retrouver à 20 ans, qu'est-ce qu'on se dirait? Est-ce qu'il faudrait tout changer dans son chemin de la vie, ou finalement toutes les embûches les plus tristes d'entre elles ou les plus heureuses font que voilà. C'est la magie de la vie, c'est la beauté et la poésie de ce film, La Belle et la Bête. Et La Belle, signée Sophie Filia. C'est quoi, je ne l'ai même pas sous les yeux en plus. Je ne l'ai pas du tout sous les yeux. À propos de Bête, voici Tanguy Passion.
France Inter, la bande originale. Le best-of.
Il maltraite l'info et Tanguy Passion. Le président Macron, donc, et son épouse sont en Inde.
Oui, Macron, c'est comme Tintin, mais sans culotte de golf. Il est jeune, hyper positif, il parcourt le monde, Afrique, Asie et maintenant l'Inde. Alors, vendredi, il a été accueilli à la sortie de l'Air Bogos One par Narendra Modi, premier ministre local, un barbu avec un peu de bide. Avec ce genre de physique, chez nous, on fait Père Noël dans la galerie commerçante d'Auchan 15 jours en décembre, mais en Inde, on est numéro 1. Si Carlos avait été expat à New Delhi, il n'aurait pas perdu 25 piges à faire les grosses têtes. Modi, dès la sortie de la passerelle, a serré Macron dans ses bras, puis a récidivé dans le hall de l'aéroport un peu plus fort. Donc là, Macron s'est dit, oula, il est chaud comme un âne fromage pépère. Alors qu'il s'agit d'un truc en Inde qui s'appelle la diplomatie du câlin. Plus Modi vous colle, plus vous êtes important. C'est la même chose que dans le métro, sauf que lui ne jouit pas dans son pantalon. Ainsi, le Canadien Justin Trudeau avait eu droit à un câlin, mais le dernier jour de sa visite, et il l'avait mal vécu. Il faut dire qu'il avait passé 7 jours en habit de Bollywood et avait mis des turbans à ses gosses. Donc c'est comme si Modi était venu au Québec avec une casquette à queue de castor pour finir assis sur un caribou. C'était un poil trop. Alors Brigitte a fini par sortir un pied de biche et a réussi à décoller Modi. Puis Macron, interviewé par India Today, a déclaré qu'il était un grand fan de la culture indienne, sans précision, c'est-à-dire qu'il a dû voir Slumdog Millionnaire et qu'un jour il est tombé dans le grenier de son grand-père sur une vieille photo de papy à Goa avec un monsieur et une dame tout nu, dont aucun des deux ne ressemblait à mamie, surtout le monsieur. Puis Macron, samedi, a vendu pour 12 milliards d'euros de moteurs d'avions français. En une journée, non. Il fait 12 milliards de chiffres. C'est le meilleur vendeur de la planète. Il peut écouler des ceintures de chasteté au Cap d'Agde, des Corans rue des Rosiers, des bustes à l'effigie de Bardot lors d'une battue de sanglier. Des étudiants lui ont ensuite posé des questions. Alors une jeune lui a demandé un conseil pour son futur. Macron a répondu « Ne respectez jamais les règles hein, ». On dirait un vieux slogan pourri pour l'eau de toilette Lady Rebelle. Alors le président, en théorie, c'est le mec qui vous dit justement que les règles sont là pour le bien commun. Hein, qu'il faut être gentil, vider toute sa rage dans le taf pour à la fin mieux voter centriste. Et là, Macron, parce qu'une poste ado à l'autre bout du monde minaude, il faut qu'il la joue à la Nicolas Duvauchel dans Braco. Un président qui dit « Ne respectez pas les règles ». Enfin, c'est comme si Geneviève de Fontenay décrétait que finalement elle était OK avec les String Panthers dans toutes les élections de Miss, avec finale en topless et Martine Aboul.
Alors, pendant que notre beau président était devant les étudiantes, où était Brigitte Macron ?
Eh bien, elle a visité un orphelinat Mère Teresa. C'est une chaîne pour les ailes de poulet et KFC. Bon, pour les orphelins, c'est Mère Teresa. Alors, on ne les mange pas, bien sûr. Dommage, parce que c'est sans doute meilleur que les ailes de poulet industrielles. Alors, ça aurait été Madonna ou Angelina Jolie. Elles auraient dit bonjour, allez hop, je vous prends les dortoirs B et C et serait parti avec plein de gamins. Mais Brigitte, non. Ils ont déjà pris un chien et deux poules. Elle n'arrive plus à gérer. Si elle a juste en plus un soir dans sa chambre un moustique, elle entre en burn-out. Puis Macron l'a appelé, lui a dit « Bébé, j'en peux plus. Depuis hier, maudit tente de me coincer dans les WC pour montrer qu'il est satisfait de la visite. Reviens. » Et là, hier, ils ont fait le truc le plus romantique du monde quand on est deux. Après s'éclater les boutons du dos à la plage, du Taj Mahal. Alors le Taj Mahal, c'est ce mausolée de marbre blanc, édifié par un empereur en mémoire de son épouse, morte en donnant naissance à leur 14e enfant, une sombre histoire d'arnaque à la CAF de l'époque. Et tous les amoureux vont s'y bécoter. Ils se chauffent, mettent la langue, les Indiens juste à côté ont construit 400 hôtels Formule 1 dans lesquels les couples passent 7 minutes, puis tout le monde cherche une pharmacie pour acheter une pilule du lendemain. Alors pour la visite des Macron, l'Inde a fait évacuer le site, ils étaient seuls, tels des cheveux sur Alain Juppé, et ils ont posé avec le Taj Mahal derrière. Alors Macron debout, les bras ballants, et Brigitte eh bien, en train de serrer son nœud de cravate. La photo la moins romantique de l'histoire. On dirait juste une dame de chez De Fursac en train d'aider un kid à choisir sa tenue pour le remariage de son oncle. S'il y a un endroit où on ne s'attend pas à l'avoir tiré sur le nœud, eh bien c'est le Taj Mahal. Mais bon, Macron a dû lui dire « respecte pas les règles, Bribri, on est des ouf, purée, Christophe Rocancourt à côté de nous, c'est Bruno Le Maire en train de boire du Candy Up, on s'en fout ». Alors Macron au Taj Mahal a fait des selfies, c'est l'équivalent des câlins, sauf qu'on est tout seul à se kiffer. Puis il a déclaré « Le Taj Mahal dit beaucoup de l'âme humaine, d'une civilisation qui s'est déployée de l'Inde à la Mongolie, de la Chine à la Turquie ». Alors comme président il est pas mal, mais comme guide touristique il est encore mieux. Je suis sûr que cet été c'est lui qui conduira le petit train de la boule.
Merci Dominique.
France Inter, la bande originale, le best-of, avec Nagui.
Retour à la musique avec Grand Corps Malade sur l'album Il y a.
Tout seul je vais vite, ensemble on va loin. L'esprit d'équipe, comme un besoin.
Il a également
quand
plan B.
Ton sixième album, tu veux sortir en indé. Pour la thune et pour la com, il faut trouver des plans B. Quand tu fais 1m60 et que tu veux jouer à NBA, peut-être que ça se tente, mais prévois quand même un plan B.
Et il nous offre une reprise maintenant, c'est une chanson de Renaud, son ami, et c'est Laisse Béton sur Inter dans la bande originale Grand Corps Malade.
J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au flipper, le type est entré dans le bar, a commandé un jambon beurre, puis s'est approché de moi et m'a regardé comme ça. T'as des bottes, mon pote, elles me bottent. Je parie que c'est des Santiago, viens faire un tour dans le terrain vague. Je vais t'apprendre un jeu rigolo, à grands coups de chaîne de vélo. Je te fais tes bottes à la baston, moi j'y ai dit laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé une torgnole, m'a filé une châtaigne, je lui ai filé mes grolles. J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au comptoir, le type est entré dans le bar, a commandé un café noir, puis m'a tapé sur l'épaule et m'a regardé d'un air drôle. T'as un blouson, mec, ton, les pavidons. Moi je me les gèle sur mon scooter, avec ça je serai un vrai rocker. Je vais faire un tour dans la ruelle, je te montrerai mon opinel, et je te chouraverai ton blouson. Moi j'ai dit laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé un marron, m'a filé une châtaigne, j'ai filé mon blouson. J'étais tranquille, j'étais peinard, je réparais ma mobilette. Le type a surgi sur le boulevard, sur sa grosse moto super chouette. S'est arrêté le long du trottoir et m'a regardé d'un air bête. T'as le même blue jean que James Dean, t'arrêtes ta frime. Je parie que c'est un vrai Lévi-Strauss, il est carrément pas craignos. Viens faire un tour derrière l'église, histoire que je te dévalise. À grands coups de ceinturon, moi j'ai dit laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé une mandale, m'a filé une châtaigne, j'ai filé mon futal. La morale de cette pauvre histoire, c'est quand t'es tranquille et peinard, faut pas trop traîner dans les bars, à moins d'être fringué en costard. Quand à la fin d'une chanson, tu te retrouves à poil sans tes bottes, faut avoir de l'imagination pour trouver une chute rigolote. Pour trouver une chute rigolote.
Vous me copierez 50 fois James Dean, monsieur, encore malade.
T'as même plus Jean que James Dean. Je vais la répéter d'abord.
La bande originale, le best-of. Sur France Inter.
Sophie Filière réalise le film La Belle et la Belle avec Mélanie Poupeau, Agathe Bonitzer et Sandrine Kiberlin, avec une scène brève mais dénudée que vous jouez, qui est assez rare au vrai. Cinéma et qui répond aussi à une scène dénudée d'Agathe Bonitzer. C'était
un
exercice obligatoire. Non, c'est un plaisir.
Volonté de ma part.
C'est un plaisir.
C'est Melville qui l'a imposé.
C'est Melville, d'accord.
C'était écrit comme ça. Et ça m'a posé aucun problème. J'ai même pas pensé, tiens, on va se poser la question de comment est une femme à 20 ans, comment elle est à 45. Non.
C'est pourtant ce que Sophie, je pense, a voulu
bien
montrer
sûr,
aussi.
Bien ouais. sûr, mais elle montre sans dévoiler la fin. C'est beau de voir un homme hésiter entre deux femmes, parce que ça rend les choses crédibles. Mmh. Il est évident que s'il rencontre en même temps une fille de 20 ans et une femme de 45, il peut... Mais c'est pas une question d'âge, en fait, non. Parce que je sais pas laquelle est la plus mûre des deux, mais laquelle est la plus finalement légère des deux, la plus jeune des deux dans la tête. Peu importe, mais en tout cas, ça raconte aussi que le temps qui passe et la beauté entre guillemets est pas forcément la jeunesse. Et
exactement, oui, ouais. Le temps qui passe peut apporter de la beauté.
Exactement.
Et ouais. être filmé par Sophie Filière, qui était à la fois une comédienne et une réalisatrice et qui est une femme de votre génération. Est-ce que ça a fait qu'elle...
Ça rassure, tu veux dire, sur le regard ça...
ouais. Par rapport à cette scène-là
ouais, par exemple.
Non, ce qui rassure, c'est que j'avais une totale confiance en Sophie, que rien n'est gratuit dans cette séquence-là, ouais. que ça raconte quelque chose, mais que c'est pas non plus, elle en fait pas un sort. Mm-hmm. Je sais que je suis bien filmée par elle, que son regard sur moi est beau.
Bienveillant,
bien
oui.
Bien sûr, ouais. Et c'est la... Et il y a une espèce aussi de... Quand on est filmé par des femmes et qu'on est une femme, de même que quand on est un homme filmé par un homme, j'imagine... Il y a une espèce comme ça de je suis sûre, d'identification. C'est-à-dire que je me suis toujours un peu trouvé des ressemblances avec les réalisatrices qui m'ont filmée. Non pas forcément physique, mais il y a comme... Je pense que si on est choisi par ces réalisatrices, c'est qu'elles ont le sentiment qu'on leur ressemble quelque part, je sais pas où.
Vous évoquez quelque chose.
Ça trouve un écho, en tout cas.
Oui, ça trouve un écho, et c'est pour ça qu'elles nous choisissent. Alors que quand on est filmé par un homme, c'est aussi de la séduction avec une femme, et c'est une autre séduction. Ça passe plus par... un truc de plus de désir, de choses plus ambiguës, sans doute.
France Inter, les meilleurs moments de la bande originale avec Nagui.
La Belle et la Belle. Alors que maintenant, c'est la Bête vas-y. Et le Bête. Daniel Morin.
Je ne sais pas vous, mais moi maintenant, j'y crois.
À quoi ?
Ouais. Ce week-end, le Front National a décidé de changer de nom et je sais pas, mais là, avec le nouveau nom, Rassemblement National, oui, j'y crois, j'ai confiance. Pourquoi ? Ne me demandez pas une explication logique, je n'en ai pas. Non, puis je suis pas le seul à être séduit. Hier soir, coup de fil, je décroche, allô ? Oui, je sais, j'ai vu la nouvelle, alors quoi ? Moi, perso, je suis troublé, oui, mais je me demande, je me pose des questions, je suis tenté, mais j'hésite. Et toi, t'es décidé ? Ah oui, tu prends ta carte, oui. Ok, c'est un peu rapide comme décision, mais pourquoi pas. Tu vas demander à être membre d'honneur ? Ah, carrément. Je t'ai rarement vu aussi enthousiaste, hein. Ok, on en reparle lundi. Salut, Nagui. Attends deux secondes avant de raccrocher, Nagui. C'est quoi la musique qu'on entend, là ? Le nouveau générique de l'émission sur Inter. Oh, super. C'est un peu bizarre, hein, quand même. Non,
c'est merveilleux.
Si vous êtes tous d'accord, bah bon, on y va. Vous voyez, je suis pas le seul à avoir été chamboulé par cette info.
On s'en fout de toutes ces conneries. Le Rassemblement National, le Front National, la National 7, tout ça c'est pareil, c'est de la merde.
Bonjour François, quel bon vent vous amène.
Mais enfin Daniel, comment peux-tu ne pas parler de ce matin, de l'énorme nouvelle du moment ?
Laquelle ?
Mais enfin, triple couille, hier, les 40 ans de la mort de Clo-Clo.
Bon, si vous voulez dire à moi, allez-y vite fait, mais on n'a pas que ça à faire.
Eh bien, hier, comme beaucoup, j'ai été me recueillir sur la tombe de mon idole. Et alors que je priais, nu, allongé sur la tombe, les bras en croix, une voix céleste est descendue du ciel et s'est adressée à moi.
Elle vous a dit quoi ?
Elle m'a dit...
François, François, c'est moi, c'est Claude. Mon absence n'a que trop duré. Je te donne pour mission de me remplacer sur Terre et devenir le nouveau Claude François. Va sur les chemins et chante mon œuvre. Fais revivre mon style au pays, il en a grandement besoin. À partir de maintenant, tu t'appelles Claude François, François, François. Va.
Et du coup, vous allez faire quoi ?
Je vais chanter ses louanges et répandre la bonne nouvelle comme un apôtre.
Bon, bah, je vais pas vous retarder, vous avez du taf, du boulot, allez-y. Bon, dans l'actu, il n'y a pas que le Front National qui s'apprête à changer de nom, il y a aussi, il vient d'en parler, Tanguy, le voyage de notre président en Inde. Il était content d'être là-bas, c'est vrai, ça faisait plaisir à voir, un voyage qui devrait s'achever aujourd'hui, lundi.
Le lundi au soleil.
Stop. Stop. Non, désolé, François-François, mais ça
suffit. Claude François-François-François.
Oui, pardon, Claude François-François-François, mais vous allez me laisser terminer tranquille sans m'interrompre. Allez, chanter ailleurs, s'il vous plaît.
Quand je pense que tu refuses ma performance, alors que Nagui me propose une vraie fortune pour participer à Taratata.
Ça suffit, foutez-moi la paix. Sinon, dans l'actu, il y a cet événement incroyable qui s'est déroulé ce week-end au stade Pierre-Mauroy de Lille. La pelouse a été envahie par la foule. Voilà, ouais. Certains supporters ont même tapé les joueurs.
Si j'avais un marteau, je taperais le jour. Je taperais
le... Arrêtez ! Ça suffit. Encore une parole de Claude François et j'appelle la sécurité. Et vous ferez moins votre malin quand vous allez vous faire choper par la...
Il se lève, il me bouscule.
Ça suffit ! Arrêtez, j'en peux plus. Avec vos conneries, on va se faire virer tous les deux et croyez-moi, autour de cette table, il n'y aura pas beaucoup de monde pour nous défendre.
Toi, c'est clair. Moi contre le monde entier, dans un ami.
Désolé, je ne savais pas comment l'arrêter. À demain.
Merci d'être bon.
La bande originale, le best-of. Sur France Inter.
La Belle et la Belle cinéma, mais parlons aussi de l'avenir. Parlons de l'avenir.
Donc, l'avenir.
Sandrine,
on se doit fou.
Vous allez bientôt démarrer le tournage de Mon Bébé ou c'est fait de Lisa Azuelos?
J'ai eu le premier jour de tournage vendredi dernier.
Parce que là, vous retrouvez Yvan Attal encore d'ici.
Ah oui, il va jouer mon ex-mari.
D'accord. Avec Patrick Chesnay également.
Sur mon père.
Quel est votre personnage ou le résumé du film ?
C'est un peu l'après-LOL. C'est une mère avec ses trois enfants et la petite dernière qui passe le bac. Et qui, donc, c'est une mère qui voit ses enfants partir, quoi, qui vit seule, qui est très contemporaine puisqu'elle assume plein de choses. Sa vie, elle est indépendante, elle a son ex-mari, ses futurs peut-être... amants, et ses enfants et la petite dernière qui s'en va.
Les champs de fleurs, ouais. Vous retrouvez l'excellente Jeannerie avec cette fois-ci Gilles Lelouch comme partenaire.
Ouais. Élodie Bouchèze.
Ça sortira le 14 novembre prochain.
Ah bon, vous me l'apprenez, tant
date.
Mieux,
ouais,
super.
Ouais, c'est ça.
Super.
Enfin, c'est la date
très annoncée. Beau
tournage. Attends, vu comment il retient les titres des films, méfiez-vous. Ouais.
Quant à vous, Melville, vous serez prochainement à l'affiche d'une Jeunesse Dorée d'Eva Ionesco. La fille d'eux.
Non, pas du tout. Non, c'est Eva, c'est une comédienne qui est aussi écrivain, qui a sorti un livre.
Formidable, Eva Ionesco.
Non, mais je pensais qu'il y avait une filiation.
Non.
Ou une petite fille.
Elle a des origines roumaines, mais non.
D'accord, très bien. Quel est votre personnage ? C'est un film avec Isabelle Huppert. Hein.
Absolument, c'est un film qui se passe dans la fin des années 70 à Paris, dans le monde du palace, de la nuit, la décadence de cette époque-là, avant le sida, avant que tout ça dégénère un petit peu. Donc c'est un peu l'insouciance et la décadence d'un couple plus âgé, donc Isabelle Huppert et moi, qui est une façon d'un couple un peu d'ogre, qui amène une bande de jeunes dans son château à la campagne et qui s'amuse.
D'après son livre ou pas ?
Non,
pas du tout.
Est-ce que vous avez des rêves, Melville, justement ? On parlait tout à l'heure de western, enfin vous avez vécu déjà ce plaisir-là ou cette chance-là. Est-ce que vous rêvez d'un
personnage,
rôle...
des rêves de personnage ?
Ouais, au théâtre ou au cinéma d'ailleurs. Mais...
Non, pour l'instant je suis content, j'ai beaucoup travaillé ces dernières années. Il y a des rôles comme ça que je me dis un jour j'aimerais bien essayer de faire un SDF par exemple. C'est un rôle qui m'intéresserait à jouer, des petites choses comme ça. Mais...
D'accord. Et vous Sandrine, ouais, est-ce que le spectre de tout ce que vous avez déjà fait en comédie, en tragédie, tous les personnages, vous avez une carrière avec...
J'aimerais bien jouer une femme
encore une fois, c'est marrant, qui a l'air de quelque chose, mais qui n'est pas ce qu'on croit. Genre, par exemple, une juge, mais en fait, elle est zinzin, elle rentre chez elle et elle a une vie.
Une double vie, quoi.
Ouais, ouais, voilà.
Double vie.
Une double personnalité.
En attendant, La Belle et la Belle, double personnalité, mais jouée par deux comédiennes différentes, mais c'est la même femme, jouée à 20 ans et à 40 ans, sous la direction de Sophie Filliard. Des excuses à présenter. Daniel Morin.
Désolé pour Sandrine Kiberlin qui, après être venue plusieurs fois dans l'émission, ne connaît visiblement toujours pas Nagui. Nagui, prince charmant. Oh là là, l'Égyptien Priapic. Quand j'entends ça, j'ai envie de crever dans un film des frères Dardenne. Désolé pour Françoise Hardy dont la chanson Je suis moi a été joyeusement massacrée par Nagui et Jérémy Crédville. Eh ben les salauds, je vous laisserai vous excuser platement le 13 avril prochain puisque nous la recevons dans cette émission.
Exact.
On la ramène moins les
pour
deux
son
là.
Nouvel album, ouais.
Désolé pour les fans de Melvin Poupeau qui ont découvert un comédien au bout du rouleau, qui n'a plus la force de se filmer, qui n'est jamais retenu quand il passe des essais, qui n'arrive même pas à intéresser sa fille en faisant des films. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est cramé, le Melville.
Le meilleur de la bande originale, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain, même heure, même endroit, sur Inter.